Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 25 octobre 2018. L'opposition congolaise s'engage à désigner le 15 novembre un candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre. 13 personnes noyées dans le chavirement d'un bateau au Nigeria, 20 passagers sont portés disparus. Pour la première fois, une femme devient présidente de l'Éthiopie. Elle s'appelle Salewerk Zewde. Aux États-Unis, Robert De Niro et Joe Biden à leur tour visés par des colis suspects. Après avoir nié la mort de Khashoggi, Riyad reconnaît que c'est un assassinat prémédité. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. Cette formation de l'opposition congolaise réunie 2 jours en Afrique du Sud se sont engagés à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et Adolphe Muzito, qui n'a pas pu se présenter, ont participé à la réunion. Félix Tshisekedi du parti historique UDPS et les candidats recalés Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba avaient envoyé des représentants à Pretoria. De violents combats signalés ces derniers jours en zone anglophone entre l'armée camerounaise et les rebelles séparatistes ont fait au moins 10 morts. Bagassi Koura nous en dit plus.
Selon l'agence Reuters, le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a déclaré que l'armée a tué environ 30 séparatistes dans les premiers combats mardi matin près de la ville de Ndou au nord-ouest et libéré 16 otages qui étaient détenus par des rebelles. Il a ajouté qu'un soldat a été tué dans ces combats. Shaw Abaya, chef des forces de défense amazonienne, l'un des principaux groupes sécessionnistes anglophones, conteste ce bilan donné par le ministre Chiroma. Il explique pour sa part que 7 combattants rebelles et 3 soldats de l'armée régulière ont été tués lorsque l'armée a saccagé un de leurs camps. Il s'agit des premiers affrontements depuis l'annonce en début de semaine de la réélection du président Paul Biya pour un 7e mandat. Le conflit entre les séparatistes anglophones qui veulent créer un État indépendant appelé Ambazonie et les forces gouvernementales a fait des centaines de morts depuis l'année dernière.
La justice congolaise a ouvert le procès de 6 policiers accusés d'homicide involontaire dans l'affaire des 13 jeunes décédés en juillet dans un commissariat de police à Brazzaville. Les prévenus mis aux arrêts après la mort des jeunes dans le commissariat de Chakona au quartier Mpila sont poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Comme les proches des victimes, l'État congolais s'est constitué partie civile. Les avocats des deux parties ont demandé au tribunal de reconsidérer le rôle de l'État. Au Nigeria, au moins 13 personnes se sont noyées dans le chavirement d'un bateau surchargé dans le centre du pays. L'accident s'est produit mercredi soir sur la rivière Katsina-Ala dans l'État de Benue, dont les eaux ont monté en raison de fortes pluies. Le sauvetage d'éventuels rescapés était toujours en cours jeudi matin. Plus de 40 personnes se trouvaient à bord du bateau et une 20aine de passagers sont toujours portés disparus. Au Mali, l'état d'urgence a été de nouveau prorogé d'un an. Il est en vigueur sans interruption depuis l'attaque djihadiste contre un hôtel de Bamako en novembre 2015. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Cette décision, adoptée hier soir en Conseil des ministres, intervient 2 mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'état d'urgence a été décrété après l'attaque contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako le 20 novembre 2015 qui avait fait 20 morts outre les 2 assaillants. Il a déjà été prolongé d'un an. Maintenant, il est reconduit jusqu'au 31 octobre 2019 à minuit sur l'ensemble du territoire malien. Il accorde des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles, de restrictions de circulation et de rassemblement. Malgré l'état d'urgence en vigueur depuis 4 ans, les violences djihadistes ont persisté et se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali. Les attaques ont maintenant atteint le Burkina Faso et le Niger voisin. Selon les Nations Unies, depuis le début de l'année, les violences intercommunautaires dans le centre du Mali ont fait plus de 500 morts.
En Éthiopie, les parlementaires ont désigné hier soir à l'unanimité pour la première fois une femme, Salewerk Zewde, présidente du pays. Claire Morin-Gibault nous en dit plus.
Mais à Addis Abeba, Saleh Work Zewede est à l'heure actuelle la seule femme chef d'État en Afrique. Cette diplomate de carrière est devenue à 68 ans la quatrième présidente en Éthiopie depuis 1995. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine. Elle a aussi été ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal et représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'IGAD, le bloc régional est-africain. Lors de son discours d'investiture, elle a salué les réformes réalisées par le Premier ministre Abiy Ahmed et son choix de nommer un gouvernement de parité égale entre femmes et hommes. Sa nomination à ce poste symbolique a été saluée par le Conseil de sécurité à New York et les diplomates réunis pour un débat du Conseil sur les femmes, la paix et la sécurité.
Au Maroc, 22 détenus du Irak à la prison Oukatcha à Casablanca ont entamé une grève de la faim. Ils ont cessé de s'alimenter mercredi après une fouille humiliante de certains de leurs proches venus leur rendre visite, a dit leur avocate Bouchra Rouissi. Ces militants protestent également contre le refus de l'administration pénitentiaire d'accorder une permission de sortie à l'un d'eux, Bilal Abad, afin qu'il puisse assister aux funérailles de sa mère, a-t-elle ajouté.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Psychose aux États-Unis. 11 colis suspects ont été interceptés depuis hier. Les derniers destinataires sont l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Après avoir appelé la veille à l'unité, le président Donald Trump s'en prend aux médias en disant que leur ton négatif doit cesser. Raissa Girondin nous en dit plus.
Un engin suspect a été découvert à Tribeca, à New York, destiné à l'acteur Robert De Niro, très critique du président américain. Un autre colis a été intercepté, envoyé à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. En Californie, une élue démocrate au Congrès, Maxine Waters, a reçu un autre colis suspect. Les 11 engins potentiellement explosifs sont identiques et, selon les enquêteurs, pourraient venir du même convoyeur. Tous les destinataires sont des adversaires de Donald Trump et pour le moment, il n'y a aucune revendication. Le premier a été intercepté lundi à New York, au domicile du milliardaire démocrate George Soros. Mardi soir, devant la porte de Bill et Hillary Clinton. Hier mercredi, c'était chez l'ancien président Barack Obama et l'élu démocrate Debbie Wasserman Schultz. Et un autre paquet est arrivé dans les bureaux new-yorkais de CNN. Le président Donald Trump a d'abord appelé à l'unité face à ces actes. Mais hier soir, lors d'un meeting dans le Wisconsin, il a changé de ton. Il a appelé les médias à cesser les hostilités sans fin, les fausses histoires et les attaques constantes. L'atmosphère est plus tendue avant les cruciales élections de mi-mandat le 6 novembre.
Après avoir initialement nié la mort de Jamal Khashoggi, Riyad a déclaré sur la base d'informations fournies par la Turquie que les suspects avaient commis un acte prémédité. Par ailleurs, le fils du journaliste saoudien a quitté l'Arabie saoudite avec sa famille, a indiqué Human Rights Watch, affirmant qu'il se trouvait actuellement dans un avion pour Washington DC. Sous les pressions extérieures, le prince héritier, le roi Salman, avait reçu Salah et un frère du journaliste mardi au Palais Royal. Alors que des milliers de migrants partis du Honduras marchent en direction des États-Unis, le ministre de la Défense, Jim Mattis, s'apprête à envoyer au moins 800 soldats supplémentaires dans la région, selon CNN. Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière, a tweeté ce matin Donald Trump, ajoutant qu'il envoyait l'armée pour cette urgence nationale afin de les stopper. L'OTAN a lancé en Norvège ses plus vastes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide face à la Russie qui a fustigé un exercice anti-russe. 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 65 navires et 250 aéronefs de 31 pays sont engagés dans l'exercice Trident Juncture 18. Les États-Unis fournissent le plus gros contingent avec 9 000 Marines et un groupe aéronaval déployé dans les eaux norvégiennes. L'aviation israélienne a annoncé avoir dépêché des hélicoptères en Jordanie pour y mener des opérations de recherche à la suite d'un accident de bus qui a coûté la vie à 17 personnes, en majorité des écoliers, près de la mer Morte. Le bus scolaire a été emporté par les pluies diluviennes. Plusieurs enfants sont portés disparus. Cette opération israélienne d'une unité d'élite de sauvetage a été menée à la demande du gouvernement jordanien. Elle porte assistance aux opérations en vue de localiser les disparus. La Jordanie a connu de fortes précipitations ce jeudi après-midi, provoquant des inondations dans plusieurs régions. Et le milliardaire tchèque Daniel Křetínský continue d'investir dans la presse française en prenant pied dans l'emblématique quotidien Le Monde, où il devient investisseur minoritaire. Il a acquis 49% des actions du banquier d'affaires français Mathieu Pigas dans la holding Le Nouveau Monde. Il est déjà présent dans plusieurs magazines français comme l'hebdomadaire Marianne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Raissa Girondin.
Le budget nigérian 2018 devrait bientôt disposer de 6,6 milliards de francs CFA octroyés par la France à travers l'Agence française de développement. Ce financement permettrait au Niger de lutter contre la pauvreté et de se confronter aux exigences du Fonds monétaire international en termes d'équilibre macroéconomique. En 2017, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire est restée excédentaire à près de 3 milliards de dollars, malgré une baisse de 40% des cours mondiaux de son principal produit d'exportation, le cacao. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres, cette efficacité s'explique notamment par une bonne performance des produits d'exportation, notamment le cacao, la noix de cajou et le coton fibre. La politique d'allègement fiscal mise en œuvre par le Kenya depuis 2016 lui a fait perdre près de 2,7 milliards de dollars. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'inquiètent du recul des recettes fiscales du pays. Environ 860 millions de dollars échappent chaque année aux caisses de l'État. En 2014, l'épidémie d'Ebola ayant touché plusieurs pays de la région ouest africaine a coûté environ 53 milliards de dollars aux économies de la région. L'étude publiée dans Journal of Infectious Diseases indique que le coût global de la flambée d'Ebola en 2014 est plus dévastateur que le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003 et l'éclosion du virus Zika dans les Amériques entre 2015 et 2016.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Les matchs de poule ce soir en Europa League.
Entre autres, 1-0 pour Arsenal dans le choc contre le Sporting Portugal. L'AC Milan s'est incliné 2-1 devant le Betis Séville. 2-1 également pour le Zénith Saint-Pétersbourg face à Bordeaux. 2-0 pour le RB Leipzig devant le Celtic. 3-0 pour le Red Bull Salzbourg face à Rosenberg. 2-2 entre Anderlecht et Fenerbahçe.
On observe un recul de la RDC au classement FIFA.
Les matchs des éliminatoires de la CAN 2019 d'octobre 2018 ont provoqué quelques changements notables dans le baromètre établi par la FIFA pour le mois de novembre 2018. Les Tunisiens, qualifiés pour la 14e fois de suite en Coupe d'Afrique, restent premiers à l'échelle continentale, passant simplement de la 23e à la 22e place. Et les Sénégalais, eux aussi qualifiés pour la CAN 2019, sont toujours la deuxième meilleure équipe africaine, avec la 25e place mondiale. En revanche, les Congolais ont cédé du terrain, reculant du 40e au 46e rang. La faute à des contre-performances face au Zimbabwe, une défaite à domicile et un match nul à l'extérieur. Du coup, les Nigériens 44e sont passés devant. À noter que Madagascar, qui disputera la première phase finale de Coupe d'Afrique de son histoire, 100e ce mois-ci, intègre le top 100 pour la première fois depuis 1993. Au niveau général, la Belgique est seule en tête devant les champions du monde français.
Et la FIFA qui se penche demain à Kigali sur l'avenir du foot mondial.
Les membres de la FIFA vont se réunir pour discuter des nouvelles compétitions internationales souhaitées par le président Gianni Infantino. La création d'une version miniature de la Coupe du Monde avec 8 équipes remplacerait l'actuelle Coupe de la Confédération. Le mondial des clubs organisé à 7 équipes passerait à 16 ou 24 équipes tous les 4 ans.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry a conduit Golden State à une nette victoire face à Washington 144-122 en marquant 51 points. LeBron James a décroché sa première victoire sous le maillot des Lakers à Phoenix 131-113. À Houston, les Rockets n'arrivent pas à lancer leur saison. Ils sont tombés face à Utah 189. À l'Est, Toronto a poursuivi son sans-faute avec une cinquième victoire en autant de matchs face à Minnesota 112-105.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Face à l'insécurité au Mali, la prorogation de l'état d'urgence n'aura pas d'effet à Tombouctou. Les populations sont plus préoccupées par la situation sécuritaire avec des militaires maliens casernés, les forces internationales cantonnées et la population livrée à elle-même, selon un constat de notre correspondant Kassim Traoré en séjour à Tombouctou.
Tombouctou est l'une des rares villes au monde située entre le fleuve et le désert. La capitale des 333 saints est confrontée à d'énormes difficultés. Tchadji Amadou Maïga de la société civile.
On a l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. Parce que la prison, elle est fermée, elle ne permet pas de sortir. Mais nous avons l'impression d'être libres alors que nous ne sommes libres de rien. On n'est pas libre de nos mouvements, on n'est pas libre de nos actions, on n'est pas libre de nos idées, on n'est même pas libre de notre conscience. Parce que des influences multiples font que notre conscience même est quelque peu touchée dès lors où il se passe autour de nous un certain nombre de choses qui sont inimaginables.
Régions d'agriculture, de pêche et d'élevage, mais faire écouler ces produits sur d'autres marchés devient difficile. Touré Fadimata Tandina de la CAFO.
Ce que nos produits ne peuvent pas être écoulés, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Et ce que nous subissons, c'est que l'insécurité fait que nos forains ne peuvent pas quitter Tombouctou pour aller faire les jours de foire, aller dans les villages voisinants pour faire le marché, sous peine de se faire braquer ou de se tirer dessus ou au pire perdre sa vie. Donc l'insécurité est un goulot d'étranglement pour les femmes de Tombouctou aujourd'hui.
Les transporteurs sont plus souciés car le prix du transport a doublé, voire triplé sur l'axe Bamako-Tombouctou. Tamba Doukouré, transporteur.
Bamako est Mopti 9 000 francs. Mopti est Tombouctou 35 000 francs, moins de 35 000 francs en bâton. Ça c'est 50 000 francs. Aller-retour 100 000 francs. Un pauvre Tombouctien qui est en train de souffrir. Il dit qu'il faut aller à Tombouctou et revenir 100 000 francs. 10 mois 200 000 francs. Qu'est-ce que tu peux aller? Donc il faut que, comment les transports étaient à 15 000 francs et aujourd'hui on est à 50 000 francs. Quelle autorité peut exprimer ça? Et vous dites que vous êtes en train de gérer les problèmes. Quel problème que vous êtes en train de gérer?
À la question de savoir si la prorogation de l'état d'urgence est une solution pour l'insécurité à Tombouctou, la réponse est la suivante.
À Tombouctou, non. Tombouctou, on ne sent pas. Parce que quand on parle de l'état d'urgence, les militaires même sont cantonnés ici. Donc on peut parler de quoi comme état d'urgence? Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. On peut venir ici attaquer quelqu'un. Personne ne grogne. Donc ça veut dire que l'état d'urgence n'a pas d'impact. La prolongation de l'état d'urgence n'a pas d'impact sur la ville de Tombouctou. Les Tombouctouciens même ne pensent même pas à ça.
Djadji Amadou Maïga de la société civile pense que l'état a démissionné face à la situation de Tombouctou.
En se trouvant dans un certain nombre de situations, devant des autorités qui disent être engagées pour la paix, pour la tranquillité, pour la stabilité de la ville et même de la région, rien de cela ne se passe. Donc cela donne des inquiétudes et nous nous posons la question de savoir, mais qui on veut berner et quelles dispositions l'autorité est en train de mettre en œuvre pour que les populations se sentent en sécurité. Si vous partez par la route, on vous arrête, on vous braque, on vous rançonne. Si vous partez par le fleuve, c'est la même chose et l'avion ne vient plus. Donc il n'y a aucun moyen en dehors de la MINUSMA qui est là et qui est là pour ses activités.
Dans la ville de 333 saints, beaucoup de gens sont désespérés à cause de l'insécurité car aucune activité génératrice de revenus ne peut prospérer dans cette situation. Tombouctou, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Nous vous le disions tout à l'heure, les parlementaires éthiopiens ont désigné à l'unanimité pour la première fois une femme Saleh Work Zewde, présidente du pays après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique et symbolique. La majorité du pouvoir étant confiée au Premier ministre. Pour une analyse, Eki Abadou a joint à New York Tsige Shifera, une journaliste d'origine éthiopienne.
La symbolique, c'est tout simplement que le Premier ministre actuel continue sa politique d'intégrer les femmes dans la vie politique du gouvernement, dans la vie politique du pays. Cela indique que les femmes comptent, que leur opinion compte. Ceci étant dit, elle est présidente, elle n'est pas Premier ministre, donc son rôle est purement symbolique. Maintenant, à voir s'il la consultera pour certaines questions, notamment d'ordre diplomatique, puisque c'est son domaine d'expertise à Madame Sadowak Zaudi.
Qu'est-ce qu'elle peut apporter au niveau de la diplomatie?
Disons qu'elle a une excellente connaissance du continent africain, puisqu'elle a été pendant plusieurs années directrice du bureau Afrique sous le régime de Malala Zenawi. C'est une ancienne ambassadrice. Et pendant cette période où elle était directrice du bureau Afrique au ministère des Affaires étrangères, elle avait constitué une très très forte liaison avec quasiment tous les diplomates qui représentaient leur pays auprès de l'Union africaine. J'en ai été témoin à plusieurs reprises, puisque nous nous connaissions. C'est quelqu'un qui était très au courant de ce qui se passe et les diplomates allaient souvent vers elle pour avoir une idée de ce que son gouvernement comptait faire sur certaines questions. Et puis, elle a aussi avec elle son expérience onusienne qui ne peut que être bénéfique pour un Premier ministre qui, au niveau international en tout cas, n'a peut-être pas l'expérience nécessaire.
Dans les mentalités, justement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir peut-être une évolution grâce à cette parité, le fait de voir que des femmes sont capables? Est-ce que c'est un signe qui peut vous donner un optimisme quelconque? En tout cas, une envie de voir les lignes bouger?
J'ose l'espérer. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un gouvernement qui est jeune, pour une population qui est extrêmement jeune. Donc ce sont des nouveaux repères pour une société dont la moyenne d'âge est autour de 25 ans, si ce n'est moins. Donc c'est un nouveau modèle à suivre. On a l'impression, je parle peut-être avec beaucoup d'optimisme, mais on a vraiment l'impression qu'une page de l'Éthiopie de l'Éthiopie a été tournée, où on a à présent un leader avec un état d'esprit ouvert, contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont pas toujours fait preuve d'ouverture d'esprit envers leur propre population.
C'était la journaliste américano-éthiopienne Tsige Shiferaou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, le personnel soignant du centre de traitement de Baraka s'inquiète de nombreux cas de choléra. En moyenne, 7 nouveaux cas sont admis par jour et Médecins sans frontières estime que l'on est en pleine phase épidémique. Baraka est situé à plus de 200 km au sud de Bukavu. Notre correspondant Ernest Mouero s'est rendu sur place.
Sous une chaleur suffocante des Baraka, les choléras rongent à petit feu la population. Les interventions en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement sont encore insuffisantes. Bora Assoumani est une habitante des Baraka. Selon elle, le gouvernement fait des efforts, mais les besoins ne sont pas tous couverts.
Les problèmes d'eau, c'est grave. On peut servir aujourd'hui un quartier, demain l'autre quartier. Il y a des puits qui ne donnent pas de l'eau. Si tu n'as pas eu de l'eau, tu seras toujours obligé d'aller au lac. Et les enfants qui ne savent pas quelle est l'eau qu'on peut boire, quelle est l'eau qu'on ne peut pas boire, ils prennent même de l'eau du lac pour boire ça.
Médecins sans frontières suit de près la maladie et assiste la population aux côtés des services du ministère congolais de la Santé. Igor Genyeka est responsable des activités médicales externes au sein des MSF à Baraka.
C'est vrai que nous vivons la situation de façon endémo-épidémique depuis le mois de janvier, mais à la 20e semaine, les cas étaient quand même gérables. Mais après la semaine 21-22, c'était pas passé au seuil épidémique. Et là, on se bat avec cette épidémie depuis maintenant plus de 20 semaines. Il faudra savoir qu'il y a les mesures qu'il faut mettre en place pour essayer d'utiliser les eaux des rivières ou l'eau des lacs. Mais ce sont ces mesures parfois qui sont difficiles à la communauté, étant donné qu'ils doivent utiliser la même eau pour boire, pour tous les travaux ménagers, ça devient compliqué.
Au centre de traitement des choléra, plus de 1000 malades ont déjà été soignés depuis le début de l'année sans enregistrer des décès. Mais les problèmes ne concernent pas que Baraka. Will Van Roekel, coordinatrice médicale de MSF Hollande, appelle à une approche préventive plus durable, impliquant d'autres intervenants en synergie.
MSF se sentir seul, temps en temps, et ça c'est pas bon. Notre expertise, c'est pour traiter le malade. Mais à le même temps, il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour prévenir. Et pour ça, ça c'est le plaidoyer. C'est vraiment important, tout le monde travailler main à main, tous les ONG et le ministère de Santé, pour arrêter ce maladie.
Pour toute la zone de santé de Fizi, Médecins sans frontières a déjà soigné plus de 11 000 malades du choléra de 2014 à 2018. Des malades rencontrés en plein traitement au CTC disent se sentir de mieux en mieux. L'infirmier de ce centre, Albert Mbeo Mwetumbula, reste optimiste.
Il n'y en a pas de rupture de médicaments aussi ici au CTC. Donc le seul conseil qu'on peut donner à la population de Baraka, le respect des règles d'hygiène tout simplement.
Ernest Mouero depuis Baraka à 210 km au sud de Bukavu pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Ici aux États-Unis, de nouveaux colis suspects ont été envoyés. Actuellement, la police de New York tient une conférence de presse. L'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden ont été visés. Et dans la foulée, le président Donald Trump a accusé les médias d'être en grande partie responsables de la colère dans la société américaine. Ces colis qualifiés de potentiellement explosifs peuvent-ils influencer les élections de mi-mandat du 6 novembre? Pour une analyse, Claire Morin-Gibour a joint l'ancien diplomate et président de Global Situation Room, Brett Bruen.
Malheureusement, je crois qu'on voit des deux côtés certains avantages, c'est-à-dire il y en a dans la partie républicaine qui vont dire il faut aller voter pour empêcher ce type d'action. Et il y en a à côté démocrate qui vont dire nous avons besoin de changer le gouvernement, alors on va aller voter. Je crois que nous restons dans cette même division qui existait auparavant. Le problème, c'est que la distance entre les deux côtés, c'est beaucoup plus loin.
D'une certaine façon, cela renforce les extrêmes de chaque côté?
On peut dire que ça renforce les extrêmes. On peut dire que même les voix extrêmes auront plus de puissance parce que dans ces moments de crise, on écoute plutôt aux voix qui représentent les préférences des uns et des autres. C'est-à-dire dans les réseaux sociaux, on va voir que, comme ailleurs, certaines voix qui disent qu'il n'y a pas de preuves, c'est juste une chose que les démocrates ont inventée pour les aider. C'était le cas hier qu'une bonne partie des gens à l'extrême droite ont croyé ces commentaires. À l'autre côté, on voit que les démocrates sont assez agressive en mettant le doigt vers le président et le coupé pour ses actions. Je crois qu'il faut avoir plus de voix indépendante, calme, et il y a une certaine responsabilité au niveau de la presse pour ne pas créer ou ajouter à cet environnement plus de huile. Mais en même temps, bien sûr, il y en a des journalistes qui se sentent assez vulnérables, assez en danger en ce moment. Et à cause de ça, je crois qu'il y en a qui voudraient trouver la façon par laquelle on pourrait changer cet environnement. Et si vous voulez, la presse, c'est devenu un acteur dans ce drame.
C'était l'ancien diplomate Brett Bruen, président de Global Situation Room. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims Lumami, à la console Chang Xiaogang, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous.